Hein, tu penses que c'est vrai? Chose certaine, ça fait réfléchir.
Des commentaires qui ne laissent personne indifférent. Resto Bistro Rumeur, 585 de la Gap, situé dans l'Hôtel V.
Que l'Outaouais se lève.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin.
Que l'Outaouais se lève.
Au 104.7 Outaouais.
Alors, Nicolas, les nids de poule, ça t'interpelle à Gatineau, surtout quand tu entends les commentaires de M. Champagne.
Oui, et j'ai déjà été victime, moi, d'un nid de poule coin Saint-Louis des Érables. Je m'en rappelle encore. Quelle belle journée j'ai passée ce matin-là. J'ai commencé le matin, puis ça a été une longue journée. Puis j'ai été, j'ai même pris en photo, là, un peu comme la dame t'a dit, sauf que je vais laisser tomber à un moment donné.
T'es pas allé pleurer à la ville pour qu'on te rembourse ou quoi que ce
soit?
Non,
ben écoute, la journée même, j'étais en bon français, bien primé, mais bon, le lendemain, la roue est réparée, puis on passe à autre chose. Bah! Qu'est-ce que tu veux?
On passe à d'autres choses.
Ceci dit, j'ai écouté hier l'entrevue du conseiller Daniel Champagne avec Louis-Philippe à propos des nids de poule sur la véranderie, notamment au coin de l'hôpital, donc du boulevard de l'hôpital où il y a un hôpital, où il y a des véhicules d'urgence, des ambulances qui circulent. J'ai pas compris pourquoi on ne bouge pas les nids de poule temporairement, du moins. J'ai rien compris de ses explications, Michel, là. J'ai compris que lui avait fait la demande, mais j'ai pas compris pourquoi quelqu'un qui va boucher les trous temporairement.
Nicolas, bouge pas. Richard, sors-moi le sonore de M. Daniel Champagne. Es-tu capable de me trouver le sonore de l'extrait qu'on a passé ce matin avec Louis-Philippe? OK? Écoute, Nicolas, pour le bénéfice de nos auditeurs, là, je veux qu'on entende cet extrait dont tu parles entre Louis-Philippe et M. Champagne, parce que moi aussi, je suis un peu comme toi, je comprends pas trop, mais je vais essayer de comprendre. Fait que je suis de bonne foi, on écoute ce que ça a donné.
Le boulevard de l'hôpital au grand complet et cette partie-là du boulevard de la Véranderie, c'est une catastrophe, M. Champagne.
Bien, en fait, c'est une catastrophe au sens où, effectivement, on est en train de rapiécer, on multiplie les interventions. La Véranderie va être faite bientôt, c'est parmi les priorités de la MTQ entre Grébert et Paiement. Et de l'hôpital aussi fait partie de notre plan triennal d'immobilisation, donc au cours des trois, quatre prochaines années comme année de financement. Moi, je suis tout à fait conscient du problème et je n'ai parlé à multiples reprises avec l'administration. Le défi auquel nous sommes confrontés, c'est qu'il y a, comme les gens le savent sûrement, il y a une boucle de détection qui fait en sorte de prioriser les lumières lorsque les gens y circulent. Donc, si on fait des travaux à court terme, ça représente des investissements importants qui vont devoir être faits dans quelques années. Donc, on explore la possibilité actuellement de refaire le quadrilatère sans nécessairement avoir à toucher aux boucles de détection. Donc, j'ai parlé avec l'administration et on me confirme qu'on tente de trouver des moyens d'être capable justement de rapiécer de façon importante en réglant le problème tout en ne faisant pas en sorte d'investir des centaines ou des millions de dollars qui vont être à refaire dans quelques années.
Mais si jamais ça ne bouge pas assez vite là, pour les interventions d'urgence, là, vous et M. Carpentier...
OK. Fait que t'as compris? As-tu compris quelque chose, Nicolas?
Pas vraiment. J'ai compris un mot. Explorer. Ils sont en train d'explorer une façon parce que c'est bien compliqué. Moi, c'est tout ce que j'ai compris.
Non, mais moi, j'essaie de comprendre que s'il y a de l'argent prévu pour refaire ce tronçon-là dans 3-4 ans, étant donné l'urgence de la situation, on peut pas prendre l'argent de dans 3-4 ans puis l'appliquer tout de suite puis le régler le problème une fois pour toutes.
Exactement. Moi, je comprends pas. Tu sais, M. Champagne le dit lui-même, c'est une catastrophe. Il y a un hôpital pas loin. Qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend pour intervenir? Et là, je te rappelle, Michel, que lors du dernier budget, Mme Boudriat avait dénoncé le fait que les élus allaient voter sur un budget qui coupait 11 millions dans l'entretien des routes au cours des trois prochaines années. Et à ce que je cherche, M. Champagne, M. Carpentier, M. le maire, puis une majorité d'élus ont voté pour ça. Parce que là, M. Champagne, il nous dit, ben, on ne peut pas dépenser au cas où on dépense plus tard. Donc, je comprends, là, on ne gère pas l'argent, on ne garochera pas de l'argent par les fenêtres. Sauf que, est-ce que ça se peut qu'en ayant des budgets plus limités, l'administration y pense à deux fois, même dans une situation catastrophique, avant d'aller réparer les routes? Parce que les demandes sont nombreuses, puis là, ils disent, bon, ben on va explorer, là, parce que là, si on dépense une couple de millions, là, il ne faudrait pas être pris pour revenir dans 3 ans. Est-ce qu'il y a une question, autrement dit, est-ce qu'il y a une question d'ordre budgétaire? Et si c'est le cas, c'est extrêmement sérieux, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que la sécurité des gens passe après le budget de la ville de Gatineau. Alors que si ça, c'est pas une priorité, je me demande c'est quoi une priorité.
Ouais.
Et comme tu l'as dit, pourquoi on ne fait pas tout de suite? Pourquoi on ne se dépêche pas? Puis l'autre affaire, il devrait y avoir des réparations immédiates, temporaires. Là, moi, quand je vois un trou quelque part dans le plancher, je ne change pas tout le plancher, mais je peux boucher le trou un bout de temps. Là, tu comprends?
Ça, on se comprend là-dessus, effectivement. Nicolas, Donald Trump, là, c'est quoi qui se passe? L'état d'urgence, le reste du mur, il accepte un compromis. C'est quoi? Explique-nous ça, là, démêle-nous ça.
Bon, il y a eu un shutdown de 35 jours. Finalement, il y a eu une entente entre le Congrès et entre les républicains et les démocrates au Congrès pour que 1,4 milliard sur 5,7 milliards demandés par Trump soient accordés à la construction du mur. Et M. Trump, hier, aurait signé cette entente-là. Sauf que M. Trump, lui, est déterminé à compléter son mur. Il s'est dit, je vais accepter cette entente-là, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je veux le faire, mon mur. Je vais déclarer l'état d'urgence, ce qui va me donner le pouvoir d'aller chercher des fonds ce qui va me donner le pouvoir de trouver de l'argent ailleurs pour financer mes murs. Mais l'état d'urgence, là, c'est une mesure exceptionnelle. La dernière fois, je crois qu'elle a été utilisée, c'est après le 11 septembre. Ça donne une idée de la gravité. Et là, Nancy Pelosi, qui est la présidente à la Chambre des représentants, qui est démocrate, elle dit, il est où l'état d'urgence? Oui, il y a des gens qui sont à la frontière, là, il y a des demandes, mais il n'y a pas un état d'urgence. Puis moi, il y a la symbolique derrière tout ça. Ouais, c'est-à-dire
certainement.
Que, c'est comme si l'immigration est une grave menace, puis là, on va faire un mur entre les États-Unis et le reste de l'Amérique. Là. Puis, tu sais, la symbolique, c'est un peu comme le mur de Berlin où c'est entre le communisme et le capitaliste. On peut dire ça ainsi. Là, c'est grave parce que c'est entre les pays riches puis les pays pauvres. Tu sais, si on arrive avec ce mur-là au 21e siècle, là, ça va être un symbole fort, là,
ouais.
Parce que ça va vouloir dire que les Occidentaux, dont nous faisons partie, je veux dire, on est quand même alliés avec les États-Unis, on fait partie des pays riches, des privilégiés, là. On est né dans le bon hémisphère. Bien, on est en train de construire des murs. Ben, vous autres, vous êtes pauvres, puis on ne veut pas chez nous. Puis il ne faut pas oublier une chose. Là. Je pense notamment, je veux juste terminer là-dessus, au Honduras, il ne faut pas oublier qu'il y a une compagnie américaine, la United Fruit, qui a exploité pendant des décennies les gens là-bas, qui a appauvri le pays. Puis que là, cette entreprise américaine, finalement, les Honduriens s'en viennent aux États-Unis pour sortir de la misère, puis on leur dit non, on met un mur, puis on ne veut pas. Il me semble qu'il y a de quoi de il y a un manque d'humanisme là-dedans, puis je pense que, j'espère en tout cas que ça ne fonctionnera pas, parce que je pense qu'au 21e siècle, ce mur-là, la construction de ce mur-là va être marquante, va être un symbole de honte pour les Occidentaux.
Ça a le mérite d'être clair, Nicolas. Merci encore une fois pour l'excellente semaine. Au plaisir de se retrouver, mon vieux.
Au plaisir, à la prochaine!
Nicolas Brisson, que vous avez entendu tout au cours de la semaine en remplacement de Françoise Boivin. 8h16 minutes, restez là. Dans quelques instants, on parle avec une femme qui est un peu découragée. Elle habite au Québec depuis 5 ans, Mme Fernanda Pérez-Gay-Juarez. Restez avec nous à Que l'Outaouais se lève.